Vous écoutez un podcast Top Music.
Top Music, premier sur la région.
Top Music.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.
Mes parents m'avaient dit, il faut que tu aies le bac, sinon tu feras pas du foot. Mais qu'est-ce qu'il fait dans, sa, dans la vie ? Ben, elle a dit, je joue au foot. Oh, mais t'aurais pas pu trouver quelqu'un qui travaille ? Il joue au foot, c'est pas possible. Mes copains qui sont à Bordeaux savaient qu'il y avait une opportunité, donc ils m'appelaient. Et puis Aimé Jacquet, viens me voir chez moi. Je dis, ok, je viens.
Il y avait d'autres clubs qui, oui. Qui vous demandaient ?
Paris Saint-Germain, Saint-Étienne, Toulouse, un club allemand, Dortmund. C'est le club qui me proposait le moins d'argent, mais j'y suis allé.
C'est un footballeur international français qui monte sur le podium. 18 sélections en équipe de France, 4 fois champion de France, en 1979 avec le Racing Club de Strasbourg, puis avec les Girondins de Bordeaux qu'il rejoint en 1982. 2 fois vainqueur de la Coupe de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions, toujours avec Bordeaux, club mythique des années 80. Léonard Specht évolue au plus haut niveau comme défenseur pendant 16 ans. Dropsy, Batiston, Tigana, Giresse, Lacombe et Aimé Jacquet sont ses partenaires de jeu. Joueur, entraîneur, dirigeant, formateur, président, il a construit sa légende en toute humilité autour de sa passion. Dans le sport comme dans l'entreprise, il prône la solidarité, le travail, la connaissance de l'autre, le respect, des valeurs humaines qui l'ont amené à devenir DRH chez L'Or, groupe industriel de 2000 personnes pendant 25 ans. À 68 ans, Léo ne lâche rien. Infatigable, il coache les pépites de demain. C'est à Valbourg en Alsace où il organise ses stages d'été qu'il me reçoit. Bonjour Léonard, merci de me recevoir.
Bonjour.
Alors, comment ça a commencé toute cette aventure fantastique autour du foot ?
Moi, je suis né à Mommenheim, un petit village du Bas-Rhin, et ma maison était à 50 mètres du terrain de foot. On était une grande famille, on était 4 garçons.
4 garçons.
4 garçons. Et,
tout le monde jouait au foot ?
Le papa jouait au foot à Wittersheim, un petit club, mais c'est, il paraît que c'était pas un grand joueur. Ah il paraît que c'était un défenseur dur, dur sur l'homme, mais il paraît qu'il y avait mieux. Donc, on est né à Mommenheim. Notre maison était à 50 mètres du stade. Donc, mes parents, grande famille, on était 7 enfants. Ma mère était toute contente de voir les 4 garçons. Elle regardait par la fenêtre.
Ah oui, elle vous surveillait par la fenêtre.
Elle nous voyait, donc à midi, elle disait « Allez, les enfants, on rentre !» Elle appelait par la fenêtre, on rentrait. Et puis le soir, quand il fallait rentrer. Donc, ça l'arrangeait. On était sur le terrain. Et puis dans le village, et puis dans le quartier, tous les jeunes étaient sur le terrain de foot. Donc, on a grandi sur un terrain de foot.
Mais ok, grandir sur un terrain de foot, c'est une chose. Devenir international, c'en est une autre. Alors, comment ça se passe ?
Tous les petits footballeurs rêvent d'être footballeurs professionnels, de jouer au Racing, surtout les Alsaciens.
Ouais.
Tous les Alsaciens, qu'ils aient du talent, qu'ils aient pas de talent, quand ils tapent dans un ballon, ils rêvent de devenir footballeur professionnel. Donc, j'ai rêvé de devenir footballeur professionnel. Mes idoles, c'était Gérard Auxerre, Gilbert Gray, cette équipe de 66, on parlait que du foot, on parlait que du Racing, c'était cette passion.
Vous aviez les posters dans la chambre.
Il n'y avait pas tellement de posters,
non.
Mais j'avais écrit à Gérard Auxerre qui m'a envoyé sa carte à Léonard bien amicalement. Mais on rêvait, tous les jeunes rêvaient, là, les jeunes que j'ai en stage.
C'était déjà professionnel le foot ? On gagnait sa vie avec le foot ?
On gagnait sa vie. Les gens étaient professionnels. Ils pouvaient vivre du foot, mais ils ne devenaient pas riches avec le foot. À l'époque, il y avait très peu d'argent dans le foot. Mais c'était déjà des professionnels. Il n'y avait pas les centres de formation comme aujourd'hui. Le foot était beaucoup moins organisé au niveau des jeunes. Mais c'était des professionnels. Donc, tous les jeunes du quartier rêvaient d'être footballeur et j'ai rêvé, donc il y avait que ça dans ma tête.
Disiez qu'est-ce que tu feras quand tu seras grand, je serai footballeur.
On me demandait pas beaucoup parce qu'à l'époque on vous demandait pas, on disait toi tu feras ça. Et mes parents étaient des gens catholiques, hein, et dans chaque famille catholique il y a près de 60 ans il y avait un curé, il y avait une bonne sœur, mmh. et puis mes parents avaient décidé que le curé, ce serait moi. Donc
vous étiez l'aîné ?
Non, j'étais au milieu.
D'accord.
Donc j'étais au milieu.
Donc il y avait un docteur, un avocat, un professeur.
Pas tellement, non. Mes parents rêvaient pas de ça.
Non.
Ils rêvaient.
Mais ils voulaient un curé.
Un curé, c'était important. Ça faisait partie un peu de la vie. J'avais un oncle qui était curé, etc. Dans la famille, il y avait toujours des gens qui avaient embrassé cette voie. Et mais moi, je voulais pas être curé. Je voulais être footballeur. Et c'est pour ça qu'ils m'ont inscrit. Dès que j'avais l'âge d'aller au petit séminaire de Valbourg, ils m'ont envoyé au petit séminaire de Valbourg.
Là où on se trouve aujourd'hui,
où il y a les stages aujourd'hui, en espérant que je devienne curé. Mais moi, j'avais pas envie d'être curé. J'avais envie d'être footballeur, au moins de faire du sport, parce que on jouait au foot dans mon petit village, mais on faisait des Jeux Olympiques. On avait notre voisin, c'était un entraîneur mythique d'athlétisme, Hubert Steinmetz. Ceux qui font le sport ou ceux qui connaissent le sport le connaissent. Et c'était un peu notre parrain. Ah. Il nous encadrait dans le foot, etc. Donc on faisait des Jeux Olympiques, on faisait du vélo, on faisait plein de sports. Donc ma vie était bercée par le sport.
Par le sport.
Je rêvais d'être footballeur professionnel, je suis arrivé. Je rêvais de faire un marathon, j'ai fait le marathon de New York. Je rêvais de faire du cyclisme, j'ai fait le Ventoux il y a quelques années. Donc j'avais toujours des objectifs dans le sport. Le sport a construit un peu ma vie, on se fixait des objectifs et puis on essayait d'y arriver. C'était pas toujours facile, mais quand on se fixe des objectifs, quand on se donne les moyens, on a plus de chances d'y arriver que le contraire.
Mmh. Et alors le foot, alors quand vous arrivez à Valbourg, c'est pas un endroit pour faire du foot ?
Non, c'était un endroit qui fait pour faire du basket.
On a fait basket. C'était du basket.
C'était le basket.
D'accord.
Et l'athlétisme.
Ok.
Et quand j'arrive à Valbourg, j'avais une chance extraordinaire. J'avais un prof de sport qui était assez influent au séminaire. Hein, il y avait beaucoup de curés qui étaient profs et mon prof de sport qui n'était pas curé. Avait beaucoup d'influence et quand je suis arrivé, je lui ai dit que moi j'aime pas, comme beaucoup d'enfants, j'aime pas l'école, hein, j'aime pas l'histoire, la géographie, les maths, par contre j'aime le sport. Et cet homme qui était assez intelligent m'a dit bah, tu feras du sport, on fera du sport ensemble. Donc je me souviens pas tellement des cours d'histoire géographie, je me souviens des Jeux Olympiques que j'organisais, des Coupes du Monde que j'organisais, des matchs de basket que je jouais, des crosses que j'organisais. Donc toute ma période de Valbourg, c'était des organisations de sport. Et
donc déjà un tempérament quand même de un peu de leader, d'organisateur, de
je sais pas si on peut appeler ça leader, mais j'avais envie de faire des choses dans ce que
j'aimais. Esprit d'équipe.
Esprit d'équipe, et bon, oui, ça, c'est des valeurs qui sont importantes, mais j'avais envie de faire des choses dans ce que j'aime, mm-hmm. dans ma passion. Et ça prouve que quand on a une passion, et puis quand les gens détectent une passion, qu'on met les gens dans cette passion, ben, ils sont performants. Mm. Ils sont équilibrés, ils sont en confiance, ils sont performants. Donc, j'avais toujours envie de faire quelque chose dans le sport. Je l'ai fait et ce prof de sport, je lui dois beaucoup. Bien sûr, je le dois à moi parce que
oui, c'est la volonté. Ouais.
Mais il m'a fait confiance et c'est important.
Ouais. Et donc lui, il vous permet de jouer au foot ?
Ben on jouait au foot, bien sûr.
Ouais. Mais d'aller plus loin ?
Non, c'est pas lui qui m'a orienté vers le Racing, mais c'est lui qui m'a donné la confiance et le foot, c'est un sport complet. Donc, quand on fait de l'athlétisme, on devient
costaud,
aérobie, ouais, etc. Ouais. Quand tu es dans du basket, on a de la détente. C'est des sports individuels, sports collectifs. C'est totalement complémentaire au foot. Et après, je jouais bien sûr au foot parce que quelque part, j'avais peut-être un talent, j'avais des qualités qui permettaient d'être meilleur que les autres. Le foot, c'est quand mon frère, qui était un très bon footballeur, a été contacté par le Racing ou a contacté le Racing. À l'époque, on avait contacté le Racing, qu'il a reçu, je l'ai suivi. Et après, j'ai joué en cadet, junior au Racing.
Et donc, on rentrait au Racing facilement, alors ?
On rentrait pas facilement au Racing.
Donc, il fallait déjà être bon.
C'est un concours de circonstances incroyable. On, On a envoyé une lettre au Racing. Ils ont regardé. Peut-être, il y avait un réseau qui disait, ah, les Specht, ils sont pas mal, parce qu'à Mommenheim, on avait une équipe, on gagnait beaucoup dans le coin.
Ah, d'accord.
On avait une bonne équipe de foot, on battait toutes les équipes. Donc peut-être le réseau faisait dire au Racing, au secrétaire général à l'époque, tiens, ou au président des jeunes. Et puis, ben voilà, on a été convoqués, on y allait. Et puis après, ça va tellement vite, on réfléchit pas. J'ai quitté Valbourg pour aller au collège Saint-Étienne. Et après, on s'entraîne. Hein, j'étais au Racing, on s'entraînait le soir. Je jouais handball, je sais plus comment on dit. Et le collège Saint-Étienne, c'était la meilleure école de handball de France.
D'accord.
J'étais champion de France de hand avec le collège Saint-Étienne.
Ah, ok.
Donc, je m'entraînais avec le prof de sport. On faisait du hand, on battait toutes les équipes de France, hein, parce qu'on avait à Saint-Étienne, il y avait les jeunes de Matzenheim et de Célestat, qui est le centre d'Alsace et le hand. Il y avait tous les meilleurs jeunes footballeurs au collège Saint-Étienne. Donc j'étais
champion de France. Mais il n'y avait pas de sport-études encore à cette époque-là.
Non, il n'y avait pas de sport. Mais on faisait du sport-études
sans le savoir,
naturel.
En fait. Ouais.
Je me souviens au collège Saint-Étienne. Quand il y avait récréation, à midi, bah, nous, les handballeurs, bah, on s'entraînait en hand. Les jeunes devaient marcher autour parce que le collège Saint-Étienne, c'était une cour fermée.
Pour pas vous déranger pendant le match.
Ils tournaient autour et nous, on s'entraînait tous les jours en hand. C'était déjà du sport-études sans lettres. Hein,
et vos parents, ils sont OK avec ça
Mes parents, ils étaient OK.
Ouais.
Mes parents,
ils avaient envisagé que vous soyez curé, mais là, c'était raté.
Oh, ils ne m'ont pas dit qu'ils étaient déçus, mais je pense que par après, ils étaient assez fiers de ce que j'ai pu faire. Bon, mes parents, une grande famille, bon, on n'avait pas grand-chose. C'est important, ils nous ont donné quelques clés dans la vie. On n'a rien sans rien. Mais quand on est dans une passion, on trouve les moyens pour grandir, pour avoir ce qu'on a envie d'avoir.
Mais là, on est logé au Racing, comment ça se passe ?
Non, il y avait pas encore les fameux centres de formation. Donc la deuxième année que j'ai joué, il y avait quelques chambres sous la tribune nord, l'ancienne tribune nord. Et puis il y en a une qui s'était libérée, on me l'a proposée, je l'ai prise parce que au début j'habitais encore chez mes parents, je prenais le train le matin. Et je rentrais en train parce que mes parents n'avaient pas de voiture.
Mais alors, à quel âge vous passez vos journées au Racing ? À partir de quel âge ?
J'ai commencé à être pro à 18 ans.
18 ans,
18,
d'accord.
19
Donc après
ans.
Le bac ?
Après le bac, voilà. J'ai fait une année de fac de droit parce que mes parents m'avaient dit, il faut que tu aies le bac, sinon tu ne feras pas du foot.
Le minimum vital, c'était le bac.
Le minimum vital, c'était... Et à l'époque, c'était quelque chose encore.
Ouais.
Donc j'ai eu mon bac et il m'a dit maintenant il faut faire quelque chose parce que le foot c'est pas sûr hein. Et donc je me suis inscrit en fac de droit, mais je me suis inscrit pour leur faire plaisir.
Ouais.
Mais ma vie c'était déjà parti pour le foot.
Donc là vous logiez au Racing.
Oui, là à 18 ans après le bac, j'avais une petite chambre au Racing.
Donc le matin c'est quoi, entraînement déjà ?
Matin entraînement, l'après-midi entraînement. On s'entraînait deux fois par jour et le samedi, dimanche, c'était le match.
Match.
Avec les pros.
Il y a une musique qui vous rappelle ce moment-là ? Vous écoutiez de la musique ?
Non, j'écoutais pas beaucoup de musique.
On voit les gens, les footballeurs aujourd'hui, ils ont tous un casque sur les oreilles. Ce n'était pas le cas.
Non, la montagne, c'est fantastique. Ça me rappelle mon père qui était cheminot. Il faisait son vin, sa piquette. Et nous, on partait tous. Que la montagne est belle, c'est magnifique.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie. Loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille ou le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle. Comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelle que l'automne vient d'arriver.
C'était une autre époque. Hein. Quand on arrêtait de jouer, ben on jouait encore. On allait de temps en temps manger une petite pizza en ville. Et j'ai connu mon épouse à cette époque-là, quand j'avais 20, 22, 21 ans. Donc je passais beaucoup de temps avec elle. Et après, c'était le foot qui a bercé ma vie jusqu'à 40 ans.
Donc en fait, c'est matin foot, midi foot, après-midi foot, soir foot,
soir
et week-end foot.
Et week-end foot.
Et votre fiancé alors de l'époque, elle vivait ça comment ?
Ses parents, c'était pas une famille de sportifs. Donc ils ont regardé ça. Elle non, parce que je pense qu'elle était avec moi pas à cause du foot, je pense. Sûrement à cause du bonhomme aussi. Un peu, je l'espère. Puis ça fait 45 ans que ça dure, donc en principe.
On va imaginer que c'était ça.
C'était ça. Mais ils étaient quand même, ils regardaient ça avec un air un peu curieux, parce que...
Les beaux-parents,
parce que...
Ça fait pas sérieux quand même.
Ça fait pas sérieux.
Hein?
Quand,
un footballeur.
Quand la première fois que je suis allé, elle a dit mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Ben, elle a dit, je joue au foot. Mais t'aurais pas pu trouver quelqu'un qui travaille ? Il joue au foot, c'est pas possible. Mais très vite, ils ont compris que quand on a une passion, qu'on peut faire de sa passion son métier, c'est fantastique.
Ouais, c'est fantastique. Donc ça commence au Racing, c'est pas encore les grands matchs. Comment ça se passe, l'équipe 1, ça vient quand ?
Les années 72, 73, 74, c'est très difficile, le Racing.
Parce que le Racing, à cette époque, est en première division.
Et deux ans après, on descend, 74, 75, on descend. Donc c'était des années très difficiles. Très difficile pour le public, pour moi, qui vivais de ma passion, j'étais content. On perdait un match, j'étais déçu. Mais après, on en gagnait, je jouais au foot, j'étais heureux. Et après, on descend en Ligue 2.
Alors, il paraît que le Racing Club de Strasbourg, c'est le meilleur public de France.
Oui. Aujourd'hui, c'est le meilleur
aujourd'hui
public de France. À l'époque, c'était un public difficile. Très difficile.
Donc, huer dans le...
Exactement.
Ouais, dans le stade.
Quand vous étiez mauvais, vous étiez sifflé.
Ah
oui ? Ah oui, et puis, quand vous étiez mauvais, il y avait très peu de monde. Au stade, je me souviens des matchs où il y avait 1500 personnes, 2000 personnes l'hiver, et je peux vous dire, quand vous êtes mauvais, moi qui parlais l'alsacien, vous entendiez l'un ou l'autre crier des choses en alsacien pas extraordinaire, hein.
Les joueurs sont alsaciens ou ça commence déjà à venir de partout?
À l'époque, non, il y avait beaucoup d'alsaciens, mais il y avait beaucoup de joueurs qui venaient de d'autres régions de France. On avait très peu d'étrangers, même si après il y a quelques étrangers qui sont arrivés. Enfin, 50% étaient des gens de la région. Et le champion de France 79 Racing, il y avait la moitié de joueurs issus de la région.
D'accord.
Ce qui faisait la fierté des
Alsaciens
à l'époque.
Ah, oui. Donc après ce moment un petit peu de débâcle, vous gagnez.
Après, on remonte, on descend.
Donc là, vous jouez en équipe 1.
Oui, je joue tout le temps en équipe 1. Une fois que j'avais mis le pied dedans, j'étais tout le temps.
C'est qui le président à ce moment-là ?
C'était Alain Léopold qui était président, et Monsieur André Borde qui était ministre, le mythique André Borde, qui était présent. Et quand on remonte, Gilbert Grèce, l'entraîneur, revient. Et là, c'est la grande période du Racing. Pendant 2-3 ans, le Racing est la meilleure équipe de France pour être champion, mais une des meilleures équipes de France pendant 3 ans. Le stade est plein, le public est là, les records de fréquentation sont battus parce qu'il y avait encore des places debout. Donc il y avait des matchs où il y avait 36 000 personnes. Donc là, pendant 2-3 ans, c'est l'euphorie.
Et vous jouez quoi alors?
Défenseur, toujours défenseur. Et Strasbourg est comme Saint-Étienne, hein. Et quand on a été champion de France, quand on regarde un peu les chiffres, Strasbourg est le club qui a accueilli le plus de spectateurs et qui a attiré le plus de spectateurs à l'extérieur avec Saint-Étienne. Donc Strasbourg était un grand club.
Et donc vous aviez les fans qui vous suivaient quand vous alliez jouer ailleurs ?
Pas comme aujourd'hui, c'était moins organisé. Mais quand on jouait à Nancy, Metz, il y avait quelques Alsaciens, donc c'est une grande... Je deviens international, donc...
International, ça veut dire que vous êtes appelé pour jouer en équipe de France.
Pour jouer en équipe de France. C'est le rêve aussi de chaque...
Le rêve ultime, ouais.
Ultime de chaque gamin. Donc,
vous avez quel âge à ce moment-là ?
24 ans.
Donc là, qu'est-ce qui vous appelle ?
Michel Hidalgo, qui était le sélectionneur national, m'appelle. Et il me rappelle pendant 3-4 ans régulièrement. J'étais un international en puissance parce que j'étais sélectionné
à chaque match.
Chaque match. Et je jouais à chaque match. Et le premier match, j'ai une chance extraordinaire. Je suis sélectionné. Je joue contre l'Espagne et je marque le but. La France gagne 1-0.
Un défenseur, ça ne marque pas de but d'habitude.
Ça ne marque pas de but et j'ai marqué. Donc c'était super. C'était ce qui m'a fait entrer de plein pied dans
la légende.
Dans la reconnaissance. Légende, je ne sais pas. Reconnaissance nationale. On dit, ah, tiens, Strasbourg, il y a un jeune qui est bon et qui est sélectionné chaque fois. Donc, c'était des belles périodes.
Et alors là, ça monte à la tête.
Je sais pas.
C'est le star system, c'est quoi? Quand on voit les footballeurs aujourd'hui, c'est impressionnant.
C'était un autre monde. Non, c'est pas parce que j'allais dans mon village, emmener mes enfants à l'école. J'allais au
Il n'y avait pas des fans qui vous suivaient, qui demandaient des autographes?
J'avais des courriers qui arrivaient. Hein, j'avais des courriers, je devais signer des autographes de toute la France, surtout quand j'étais international. Mais on vivait une vie normale. Je considère que c'était une vie normale. On n'avait pas de garde du corps, pas de chauffeur, pas de grosse voiture. On
se déplaçait quand on se déplaçait. Mais à ce moment-là, le foot était déjà télévisé?
Il y avait une chaîne TF1 qui télévisait les matchs. Il n'y avait pas encore tant de... Le foot a commencé dans les années 82 avec Canal+.
Ah oui.
Donc, et là, on était avant. C'est juste un petit peu avant. Donc, il n'y avait pas trop d'argent dans le foot. Les joueurs... Bon, un joueur gagnait bien sa vie. Mais de cette génération, je me souviens quand les joueurs arrêtaient leur carrière de footballeur, ils étaient en général... recrutés par Adidas ou par des...
Ah oui, par des marques de sport.
Et ils gagnaient le même salaire que comme footballeur.
D'accord.
Donc, on peut considérer qu'à l'époque, les footballeurs étaient payés comme des cadres d'une entreprise. Mm-hmm. Donc, ce n'était pas encore les sommes qui existent aujourd'hui. Parce que Adidas... Et en plus, ils avaient la voiture. Adidas leur donnait une voiture qu'ils n'avaient pas ici. Donc, ce n'était pas encore la folie de l'argent qui est revenue juste après, dans les années 82. Avec Canal+, avec la médiatisation du foot qui arrivait bien après.
Donc vous, à ce moment-là, vous quittez le Racing.
Oui.
Pour aller à Bordeaux, chez les Girondins.
À contre-cœur.
Et pourquoi vous partez?
Parce que l'entraîneur voulait plus de moi.
Ah oui?
C'était quand je le vois maintenant, c'est Roger Lemaire qui était l'adjoint de Aimé Jacquet à l'époque en équipe de France et qui a entraîné l'équipe de France. Roger considérait que je ne pouvais plus apporter quelque chose à ce Racing. J'avais 28 ans.
Mais Roger Lemaire était à Strasbourg?
Était entraîneur à Strasbourg.
D'accord.
Et il considérait que j'avais fait mon temps. Je lui en ai voulu sur le moment, mais après, je l'ai remercié. Parce que, petit Alsacien comme moi, partir de Strasbourg, ce n'était pas gagné.
Mais là, lui, il vous dit qu'il faut changer... Mais il ne vous dit pas où aller?
Non.
Alors, comment vous décidez d'aller à Bordeaux? Ou est-ce que quelqu'un vient vous chercher?
J'ai joué en équipe de France quand même. Et mes copains, Tigana, Gires, Lacombe, qui sont à Bordeaux, savaient qu'il y avait une opportunité. Donc, ils m'appelaient. Tu viens, le poste est pour toi. Et puis, Aimé Jacquet, qui était l'entraîneur, vient me voir chez moi, à Strasbourg. Et il me dit, écoute, tu viens. Et cette visite d'Aimé, je dis, écoute, ok, je viens, je... Donc, j'avais plein de contacts, c'est vrai.
Il y avait d'autres clubs qui vous demandaient?
Paris Saint-Germain, Saint-Etienne, Toulouse, un club allemand, Dortmund. Mais l'argent n'a jamais été mon moteur. Donc,
il y avait qui au PSG à ce moment-là?
Il y avait Borrelli, qui était le président. Il y avait Saint-Etienne, le grand Saint-Etienne.
Ah oui, le grand Saint-Etienne. Et vous n'avez pas eu envie d'aller là-bas?
Non, j'avais envie d'aller à Bordeaux parce que Aimé Jacquet, j'avais l'impression qu'avec lui, je serais en confiance. Et puis,
La famille.
Mes amis qui m'appelaient. J'ai dit, j'y vais. Je suis allé à Bordeaux. C'est le club qui me proposait le moins d'argent, mais j'y suis allé. Mais
donc,
après,
c'était l'ambiance qui vous plaisait.
J'avais l'impression que je serais en confiance. Là. Mm-hmm. C'est important, la confiance. Et c'est ce qui s'est avéré juste.
Et donc, il faut déplacer toute la famille.
Il faut déplacer ma femme, mes deux enfants. Pas facile. Mais très vite, se sont adaptés. On a habité un petit village à côté de Bordeaux, près du centre d'entraînement. Il y a les footeux, René Girard, Lacombe habitaient à côté, ils avaient les enfants du même âge. Donc très très vite, la famille s'est adaptée à cette région, on a, On a passé 5 années merveilleuses sur le plan humain. On s'est fait beaucoup d'amis. Et puis sur le plan sportif, avec...
Donc là, fantastique, parce que on le club tout. De Bordeaux devient un club mythique.
C'était la meilleure équipe de France. C'était un bon choix. C'était un bon choix. On jouait au plus haut niveau de l'Europe. J'avais des amis footeux, donc c'était des moments de bonheur. Ce qu'on rêvait quand on est gamin sur mon terrain précaire à Momenheim était en train de se réaliser. Donc. Et voilà, ça a duré 5 ans. Puis bon, après, à 33 ans, la retraite footballistique n'est pas très loin. Je suis revenu à Strasbourg.
Pour rejouer au Racing.
À l'époque, le Racing, c'était le président, c'était Daniel Echter, qui était assez décrié à Strasbourg. C'était le Parisien qui vient, etc. Donc, mais j'ai trouvé que c'est un homme passionné, qui aimait le foot.
Mais c'est lui qui vous a rappelé
Daniel Echter m'a dit, écoute, tu viens...
Donc, il fallait quitter Bordeaux.
Mais bon, à Bordeaux, c'est vrai. Mon épouse ne voulait pas, la famille était installée. Mais quand même, Daniel Echter a su me convaincre. Bah, tu joues encore 2 ans. Strasbourg était en Ligue 2. Comme j'avais mes diplômes d'entraîneur, j'avais le diplôme le plus haut pour entraîner. Et donc Daniel m'a dit, Daniel Echter, tu joues encore 2 ans et après tu prends le centre de formation et puis après on verra.
Donc là, les centres de formation avaient commencé à arriver.
Ils sont arrivés aussi dans les années, fin des années 70, 79, 80.
C'est Auxerre qui a commencé ?
Non, c'est un certain Georges Boulogne qui était un peu visionnaire, qui voulait qu'on travaille au niveau des jeunes. Et pour bien travailler avec les jeunes, il fallait créer des centres, etc. Pour bien travailler, pour pas trop les casser. Donc c'était le début des centres de formation des années 80. Et donc en 87, quand je suis revenu, Strasbourg avait un centre de formation.
D'accord. Donc à 35 ans, retraite de joueur.
Retraite footballistique, c'est l'âge normal.
Normal.
Donc j'ai pris le centre de formation. Et puis je me voyais éducateur. C'était ma vie, le football. Donc j'étais tout à fait... J'arrête de jouer.
Le football et l'Alsace.
Mais j'ai vu qu'on pouvait vivre ailleurs aussi. D'accord. Et qu'on pouvait être heureux ailleurs. C'était important.
Et est-ce qu'il y avait des déplacements partout dans le monde, du coup ?
Oui, avec Bordeaux déjà, comme on jouait en Coupe d'Europe. On jouait dans toute l'Europe, dans tous les pays. On jouait avec l'équipe de France.
Ça devait être grisant quand même.
J'aime pas trop l'avion, c'est pas ça qui me passionnait trop. Donc c'est toujours un peu stressé par rapport à l'avion, mais découvrir les stades. Mais on découvrait pas grand-chose parce qu'on allait à l'hôtel et stade. Donc pendant ces années footballistiques, j'ai pas beaucoup visité. Mm-hmm. C'est vrai.
Et est-ce qu'il y avait déjà cette exigence physique, une hygiène de vie, des entraînements tout le temps, comment ça se passait ?
Il y avait déjà des entraînements, il y avait des clubs, notamment étrangers, qui étaient beaucoup plus armés sur le plan scientifique, entre guillemets. Mm-hmm. Et en France, on commençait. Hein, à l'époque, il y avait un entraîneur qui s'occupait de tout. Là, à Bordeaux, Aimé Jacquet avait déjà un préparateur physique. Ils avaient déjà un kiné, un docteur. Donc, les clubs commençaient à parler staff technique.
Ouais.
Hein, donc, pour mieux travailler, pour pas trop casser.
C'est lui qui a imaginé ça ? Il était un précurseur là-dedans ?
Aimé Jacquet le faisait beaucoup, mais beaucoup de clubs le faisaient déjà. Ouais. Les grands clubs commençaient parce qu'à l'étranger, ils le faisaient. Pour être compétitif, il fallait... être dans cette voie-là. Il fallait devenir un peu plus scientifique.
Ouais.
Cet aspect-là est arrivé dans les années, surtout dans les années 90. Mais moi, je le faisais parce que j'étais convaincu que quand on dort bien, quand on fait attention à ce qu'on mange, on est plus performant.
Ouais.
Et quand je suis arrivé à Bordeaux, je buvais de l'eau. Et là, mes amis m'ont dit, il faut pas boire d'eau, il faut boire du Bordeaux. Et là, je me suis passionné pour les vins de Bordeaux. Alain Giresse, Patrick Battiston, c'était des passionnés de vin et surtout du Bordeaux. Bordeaux, c'est pas du vin, c'est de l'art. C'est comme ça que je me suis passionné pour cet art. Et pendant mes périodes bordelaises, c'est devenu ma passion. Le Bordeaux, c'est ma passion.
Et est-ce que déjà, y a vous regardez des matchs ensemble, vous décortiquez ce que font les clubs adversaires, etc. C'est déjà cette réflexion, comme on voit aujourd'hui, la préparation des équipes.
Oui, à Bordeaux, on le faisait. À Aimé Jacquet, avant qu'on joue une équipe, il la décortiquait, surtout en Coupe d'Europe. Mais personnellement, je regardais toujours le foot, je regardais les équipes, je regardais mes adversaires. je regardais les joueurs que je rencontrais. Donc moi je le faisais. Mm-hmm. Je regardais tous les matchs à la télé.
Et comment ça se passe dans une équipe? On est amis, comment on vit dans une équipe?
J'ai eu la chance à Bordeaux notamment de vivre dans une grande équipe avec des grands joueurs, mais aussi avec des gens qui ont des valeurs, qui sont devenus des amis. Bernard Lacombe, Patrick Battiston, Alain Giresse, c'est des amis pour la vie. C'est des gens que je revois régulièrement. En dehors du foot, on se voyait. Les épouses se voyaient, les enfants se voyaient. Donc, on a créé des liens pour la vie. Nous, sur le terrain, parce que quand on joue dans les pays de l'Est, en Russie, etc., quand vous avez prenez des coups ensemble, vous êtes solidaires ensemble, c'est inconsciemment, ça crée des liens pour la vie. Mm-hmm. Et Aimé Jacquet, c'était un grand technicien, mais c'est un ami pour la vie parce que bon, il nous a fait confiance.
Il était joueur, lui ?
Et c'était un ancien joueur, oui.
Ouais.
Ancien joueur de Saint-Étienne, de Lyon. Et puis il a entraîné Lyon, il a entraîné Bordeaux. Et puis après, c'est lui qui a gagné le premier titre en 98 avec l'équipe de France. Être sélectionneur d'une équipe nationale et après champion du monde, c'est le sommet.
Oui, c'est le sommet, oui.
Aimé Jacquet, il a été champion de France, champion du monde, Didier Deschamps.
Pareil.
C'est incroyable ce palmarès. C'est des gens qui ont un petit peu un plus, je pense. Aimé Jacquet, c'est un gars qui écoutait beaucoup, qui avait une rigueur, hein, qui avait une rigueur personnelle. Il y avait pas de... Aimé Jacquet, on n'y voyait pas de faute. Il était là le premier, il partait le dernier.
Ah ouais.
Parce qu'il savait qu'il fallait qu'il soit intègre. Il faut qu'il soit exemplaire. S'il n'était pas à la moindre faille, les joueurs ne sont pas toujours faciles.
Bah, surtout que plus ça va, plus les joueurs sont des stars. Quand vous laissez sur le banc une star, c'est compliqué, non?
C'est très dur. C'est très dur. C'est pour ça que Aimé Jacquet était un des premiers à prendre un adjoint qui s'occupe de ceux qui ne jouent pas. Mm-hmm. Parce que ceux qui ne jouent pas, un jour, tu en as besoin. Mm-hmm. Et le jour où tu en as besoin, il faut qu'il soit 100%. Donc il faut s'en occuper.
Donc il était précurseur quand même, Aimé Jacquet.
Et il y avait justement Roger Lemaire qui s'occupait souvent des anciens. Donc dès qu'il y en a un qui n'était pas là, l'autre était là. Et il était précurseur. Je pense que dans beaucoup de pays, ça se faisait. Mais lui, il insistait sur cela. Il s'occupait de ceux qui ne jouaient pas. Il s'occupait de la famille. Hein, parce qu'il savait que quand les joueurs devaient être là, ils partaient 15 jours, 3 semaines, il fallait que les épouses soient aussi partie prenante. Donc il les réunissait toujours pour leur expliquer, voilà, ils vont vivre quelque chose de fort, il faut que vous soyez là. Donc il était attentif à tous les paramètres qui pouvaient aider à la performance.
Et vous vous êtes inspiré de lui ensuite, alors, pour devenir éducateur vous-même ?
Quand je voulais embrasser ma carrière d'entraîneur,
ouais.
Ce que je pensais, c'était mon exemple.
Ouais.
J'ai toujours été attentif à ce qu'il faisait. Il était toujours là le premier. Il gonflait les ballons, il mettait l'exercice en place, il était toujours là pour être à votre écoute, avec aussi de la rigueur, hein, parce que quand Aimé Jacquet vous disait on s'entraîne à 9h, vous arriviez à 9h une seconde, il disait tu restes à la maison, tu t'entraînes pas.
Ah oui ?
Ah oui, quand vous aviez en déplacement, rendez-vous à 9h, vous arriviez à 9h une seconde, vous restiez à la maison, qui que ce soit. Mais après, dans ce cadre-là, il vous faisait une confiance absolue. Et c'est des choses que j'ai retenues. Je ne sais pas si aujourd'hui ces valeurs existent encore, mais à l'époque, c'est quelque chose qui faisait partie de notre réussite. Et s'il y a une direction, s'il y a une voie et que tout le monde la suit, il y a plus de chances d'y arriver.
Oui, mais il n'y avait peut-être pas encore ce star system qu'on connaît aujourd'hui. Ah ouais. J'imagine que Mbappé arrive à 9h01, ça m'étonnerait qu'il rentre à la maison.
Si Mbappé, je pense, Didier Deschamps, je ne connais pas sa façon de voir les choses, mais si Mbappé sait que si à 9h01 il ne vient pas, il sera là à 9h.
Oui.
Mais là, il sait que ce n'est pas un problème. Mais comme c'est un garçon intelligent, il serait là.
Oui,
pour
d'accord.
Il n'y a aucun doute. Il n'y a aucun doute. Dans un cadre, aujourd'hui...
Alors, j'ai dit Mbappé, mais si c'était Neymar.
Neymar sait que s'il vient à 9h20, ce n'est pas un problème pour lui.
Ouais.
Mais s'ils savaient que c'était un problème, je ne sais pas, je pense qu'ils viendraient. Parce qu'ils sont intelligents, le footballeur est un garçon intelligent. Il sait s'adapter. Il doit s'adapter constamment à l'adversaire, il doit s'adapter à son partenaire. Et ça, c'est de l'intelligence.
Ça, c'est la qualité du footballeur, c'est de s'adapter.
C'est, pour moi, l'intelligence, c'est la faculté d'adaptation, que ce soit le footballeur ou que ce soit dans l'entreprise. Dans l'entreprise, il y a des gens qui doivent s'adapter aux valeurs de l'entreprise, s'adapter aux gens. Celui qui ne prend pas en compte ce point-là, ben, il risque d'avoir des difficultés. La faculté d'adaptation, pour moi, c'est un signe d'intelligence.
Alors du coup, ben, vous vous adaptez au fait de devenir entraîneur.
Oui, mais...
Éducateur, hein, c'est quoi la différence?
Un entraîneur, c'est un éducateur. Il doit faire progresser son équipe, il doit les faire travailler ensemble. C'est un éducateur. Et non, parce que comme je voulais le faire, tout naturellement, j'y vais. Mais après, je vois que la réalité et ce qu'on apprend dans les livres et ce qu'on voit, il faut s'adapter. Donc là aussi, il y a des moments d'adaptation. Mais j'ai pris beaucoup de temps parce que le centre de formation, je l'ai dirigé deux mois.
À deux mois seulement?
Parce que l'entraîneur des pros est parti. Des pros, après deux mois, mauvais résultats, il a dit « bon, je m'en vais ». Et Daniel Echter, qui était m'a dit « bon, tu prends l'équipe ».
Donc c'est vous qui avez entraîné l'équipe 1?
L'équipe 1. Je voulais pas au départ, mais vous savez, quand vous avez des diplômes, quand vous avez joué longtemps, vous pensez « bon, bah, on y va ».
Ouais.
Et j'y suis allé, j'ai entraîné deux ans.
Et c'était bien?
C'était bien, mais c'est un métier difficile. C'est un métier où vous êtes seul, ouais. Ce qui est bien.
Mmh. C'est... Bah ça change, parce qu'avant, vous n'étiez pas seul.
Vous prenez les décisions seul. C'est un métier où vous devez vous remettre en question continuellement. Métier qui vous bouffe du lundi au
dimanche.
Au dimanche, vous êtes tout le temps en train de réfléchir à l'équipe. L'équipe perd un soir, le lendemain matin, vous devez être en forme pour rebooster de nouveau cette machine. C'est un métier extraordinairement riche en remise en question, résistance au stress. Si vous n'êtes pas hyper passionné, vous ne le faites pas. Et peut-être j'étais pas hyper passionné.
Par l'entraînement. Ah ouais.
À un moment donné, faire des exercices, gonfler les ballons, comme faisait Arsène Wenger quand j'étais à Arsenal, je l'ai vu. Cela ne me passionnait plus. Et puis donc, pendant cette phase d'interrogation, etc., j'ai eu la chance ou l'opportunité de croiser Robert Laure qui a pensé que je pouvais aussi exister dans le monde de l'entreprise. C'est à ce moment-là, pas de doute, mais d'interrogation, que j'ai choisi de quitter le foot. On ne quitte jamais le foot.
Mais alors justement, alors comment on change de vie? Parce que là, c'est un changement de vie totalement radical.
Ben, je ne sais pas.
36 ans footballeur, et ouais. D'un coup, on quitte le terrain.
Je ne sais pas. C'est les rencontres de personnes. Donc, moi, je ne pensais jamais quitter le monde du foot. Et il se trouve que Robert Laure, qui était donc le patron d'une entreprise alsacienne, qui était un passionné de foot, passionné de...
Que vous connaissiez déjà?
Pas du tout.
Ah non.
Qui, quand je suis revenu de Bordeaux... m'a dit, écoutez, monsieur Spech, quand vous ne jouerez plus au foot, vous viendrez dans mon entreprise, vous serez DRH. Bon. Je dis, écoutez, monsieur, je ne vous connais pas, désolé, mais moi, ma vie, c'est le foot, hein, j'ai mes diplômes. Et chaque année, il est venu.
Et puis, c'est quoi, DRH?
DRH, oui, qu'est-ce que c'est, DRH? J'ai fait un peu de droit, mais je pense que c'est un peu limite pour gérer les 1500 personnes que vous avez à Dupicain. C'est pas grave, l'année d'après, il est revenu... Et quand j'étais entraîneur, c'est ça peut-être qui m'a fait basculer dans le métier, dans l'entreprise. J'étais entraîneur du Racing et on jouait pour monter en Ligue 1. Et on joue contre Nice. Donc le vainqueur, aller-retour, montait en Ligue 1. On gagne à Strasbourg 3-1, le match aller. Ce qui, 9 fois sur 10, voulait dire, bon, ça y est, ils sont...
C'était bon, quoi.
C'était bon. Et on joue à Nice, on perd 6-0. On reste en Ligue 2. Et là...
Ah, mais là, c'est la claque, là.
Là, c'est la claque. Là,
monumentale.
Je parlais du monde du solitaire entraîneur, mais là, vous êtes plus que solitaire. Il n'y a plus personne.
Hein. Et puis, tout le monde vous déteste.
tout le monde vous déteste, tout le monde fuit, il n'y a plus rien dans le vestiaire, vous vous êtes assis, vous êtes dans l'aéroport de Nice, vous êtes tout seul, ils sont tous partis, vous êtes tout seul sur un banc.
Mais comment ça se vit, ça? C'est-à-dire que les joueurs sont contre vous?
Non, c'est naturel. Non. L'humain n'aime pas la défaite.
Mais les joueurs sont fâchés, sont fâchés, tout le monde est fâché.
Les présidents disent, bon, c'est le moment, il a échoué, bon, c'est ce que je peux comprendre.
Donc ils dégagent.
Il faut qu'ils partent. Et les joueurs sont désolés pour moi, parce que finalement, Franck Leboeuf, Yuri Djurk, que j'ai entraîné, ils me disent toujours, on était désolés, mais c'est la vie de l'entraîneur, il faut...
Mais l'entraîneur, il est obligé de gagner.
Il est obligé de gagner.
Alors que le joueur, pas obligatoirement.
Non, si le joueur perd, ben c'est la faute du partenaire, de l'entraîneur, du club. C'est jamais sa faute.
C'est vrai, ça?
L'entraîneur, c'est comme ça. Mais c'est pas vrai. Le joueur, il est aussi un petit peu pour quelque chose. Mais on peut pas accuser le joueur, c'est
l'entraîneur. Pourquoi?
Ah bah ben, parce que c'est une star, parce que...
Ah oui, donc on est déjà quand même dans le star system.
Voilà, parce que... Donc vous êtes tout seul et vous prenez l'avion, vous atterrissez à Ensign.
Et ça, c'est dans tous les sports, hein. C'est pas que dans le foot.
Partout.
Hein, partout. Partout. L'entraîneur, c'est le bouc émissaire.
Oui.
Et par contre, si vous gagnez,
particulièrement dans le foot, oui.
Si vous gagnez, l'entraîneur,
non, c'est les joueurs.
On sait pas qui c'est. Ouais,
c'est
voilà.
C'est les joueurs.
Même Zidane, il a vécu ça.
Il le sait, il a vécu, bien sûr. Et Deschamps sûrement aussi. Tous les entraîneurs l'ont vécu, ce moment de solidarité.
Donc c'est horrible d'être entraîneur.
Alors, c'est un métier extraordinairement formateur, extraordinairement fort, mais il faut accepter certaines contraintes, certaines règles qui ne sont pas toujours faciles. Donc, je reviens à mon histoire, pourquoi j'ai quitté le monde du foot. Donc, je reviens à Strasbourg, je vais...
Donc là, la tête basse.
À ma voiture, tout seul, et il y a Robert Laure qui me fait la proposition.
Qui vous attend à la voiture.
Qui m'attend à 3h du matin.
C'est pas vrai.
Proposition. Et j'ai dit, tiens, oui, peut-être... cet homme-là a confiance en moi et je vais voir. Donc,
c'est beau quand même.
S'il n'avait pas été là ce soir-là, je pense que je serais resté dans le foot. Et là, je me suis dit, tiens, je vais voir ce que ce bonhomme a, ce que c'est qu'une entreprise. Et donc, j'ai regardé pendant 6 mois, etc. Et après, j'ai vu que c'est aussi une belle équipe. Mm-hmm. Qu'on peut vivre de belles choses passionnantes, surtout au niveau des RH. Il y a des moments difficiles, des moments où il faut licencier, il y a des moments... où les gens sont très déçus. Et puis, il y a des moments
extraordinaires. En fait, c'est pas loin de l'entraîneur.
C'est pas loin de l'entraîneur.
Mais c'est incroyable, cette confiance qu'il a eue en vous, de se dire, je vais prendre quelqu'un qui vient pas du tout du monde de l'entreprise, qui connaît rien, quelque part, à l'entreprise.
Ouais.
Enfin, et à la fois tout.
Ben, il avait raison, je connaissais rien à l'entreprise. Moi, je faisais une sieste tous les jours, de 2h à 3h. Quand je suis arrivé à l'entreprise, il n'y avait pas de sieste de 2h à 3h. Hein. Je peux vous dire que c'était pas le soir. Et le soir, moi, à 5h des fois, je rentrais à la maison. Mais quand vous aviez votre DG à 19h, allez, on fait une petite réunion. Premier temps, j'ai dit des réunions, mais moi, je suis naze, je ne peux pas faire de réunion. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Donc, c'est un monde sur la forme, c'est un autre monde, mais sur le fond...
Oui, sur le fond, c'est pareil.
Valeurs.
Mais justement, alors, ce rythme physique, parce que tous les jours, vous faisiez du sport, même en tant qu'entraîneur.
Ouais.
Et là, d'un coup, il faut mettre quoi? Une cravate et il faut aller au bureau?
Il faut mettre la cravate, il faut aller au bureau.
Mais c'est horrible.
C'est très dur.
Ah oui, j'imagine.
On passe
quand même du short au costume.
Il y a des moments où je me disais, mais qu'est-ce que je fais dans cette galère? Après, vous êtes repris par envie de faire la chose, envie d'avancer, envie d'apporter peut-être des choses au... à l'entreprise.
Mais il n'y a pas un moment où vous vous dites, non mais moi j'ai pas envie de mettre un costume, j'ai pas envie d'aller en réunion à 19h.
Ah si, des fois vous direz, ce soir je peux plus. Ah, franchement, parce que tu ne vas plus rien tirer, c'est pas possible, je suis cuit. Je rentre. Bon, ils ont accepté, mais très vite, comme j'ai eu la chance d'avoir physiquement un corps qui s'adapte assez facilement, très vite j'ai pu assister aux réunions à 19h. Et même après, j'étais moteur. J'étais là le premier et je partais le dernier.
Et pourquoi au départ on peut pas, pourquoi on est cuit à 19h?
Ben, quand vous avez pendant 20 ans eu un rythme.
Mais on se lève tôt quand on est footballeur?
Non. Non, on s'entraîne à 10h. Donc on se lève à 8h. On emmène les enfants à l'école et puis après on va à l'entraînement.
Ouais.
Si l'entraînement n'est pas trop long, on peut encore chercher les enfants. ramener et faire une sieste et on s'entraîne le soir. C'est pas le rythme de l'entreprise.
Mais bon, quand même, c'est extrêmement physique. C'est-à-dire, l'entraînement, c'est pas juste...
Mais on récupère aussi.
Ouais.
L'entraînement, c'est une heure et demie. Et après, on récupère. On se repose, on a des massages. On est des athlètes de haut niveau.
Oui, ouais, bien sûr.
Des garçons de 20, 25, 30 ans, avec tout le service médical, l'assistance qu'ils ont avec eux, il n'y a aucun problème.
Et ce côté, allez, c'est pas très gentil, mais assister du joueur, c'est vrai, vous êtes cajolé, vous êtes... Et là, d'un coup, dans l'entreprise, vous êtes seul, vous êtes livré à vous-même.
C'est très dur.
Et c'est vous qui devez assister les autres. Comment ça marche?
C'est très dur, mais moi, je me suis adapté très vite parce que j'avais envie d'aider les gens. Une des valeurs, c'est le collectif. Donc, je dois être là pour les autres, écouter les autres. Quand vous êtes DRH, quand une personne a un problème, vous la convoquez au bureau, vous écoutez pendant une demi-heure, vous avez déjà réglé 50% de son problème. Donc, c'est l'écoute, la disponibilité. Et c'est vrai que j'étais footballeur professionnel. En Alsace, tout le monde s'intéresse au Racing, etc.
Ouais, vous étiez hyper connu.
J'avais l'écoute, j'avais la disponibilité des gens. Mais j'étais proche d'eux.
Mais vous ne vous sentiez pas illégitime? Vous ne vous disiez pas, oh là là, mais moi, je ne suis pas à ma place?
Non, pas du tout. Parce que, monsieur Laure, je vais dire, écoutez, monsieur Laure, je ne vais pas rester dans mon bureau, moi. Vous me donnez un bureau, mais je vais aller voir les gens, je vais voir le soudeur, etc. Je vais voir les gens pour discuter avec eux, pour comprendre leurs problèmes. J'étais peut-être 2% de mon temps dans mon bureau. Mm-hmm. Et je lui dis, je veux un juriste, je veux des gens qui s'occupent de formation. Je ne vais pas m'embêter avec le livre rouge, le droit du travail, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas moi. Le poste est pour moi. Il m'a dit, bon, vous prenez le meilleur juriste, vous prenez... Et je me suis entouré de 2 ou 3 personnes qui sont encore aujourd'hui dans l'entreprise. Puis j'ai pris les meilleurs.
Comme Aimé Jacquet, au final.
Je savais, quand on veut gagner une Coupe d'Europe ou un championnat, il faut des bons joueurs. Mmh. Et là, j'ai pris de très bons collaborateurs, fidèles, en qui j'avais confiance, avaient confiance en moi, ce qui m'a beaucoup aidé aussi.
Donc vous avez reproduit ce que vous aviez vu.
C'est pour ça que j'ai dit que c'est le foot et l'entreprise, c'est sur la forme, c'est différent. C'est un autre monde. Mais sur le fond, sur l'effort, la persévérance, la passion, il faut aimer les gens. Sur les difficultés qu'on doit passer, c'est la même chose. C'est vrai que le foot, peut-être le sport, les émotions sont plus grandes et plus nombreuses. Dans le monde de l'entreprise, les émotions se construisent beaucoup plus dans le temps. Mais elles se construisent. On peut avoir quelques larmes en ayant atteint un objectif avec votre groupe, hein, comme quand vous gagnez une Coupe de France.
C'est plus retenu. Dans le monde du sport, il y a l'immédiateté de la gagne, c'est l'explosion, puis c'est le public. Dans l'entreprise,
c'est vrai,
vous êtes seul.
Dans le monde de l'entreprise, j'ai aussi vécu des... Quand vous convoquez un jeune, écoutez, je te donne un contrat à durée indéterminée, qui l'attendait depuis très longtemps. Ah super, ça y est, je vais pouvoir acheter ma voiture, je vais pouvoir acheter mon appartement, m'installer avec ma femme. J'ai vu des gamins ou des gens avoir les larmes aux yeux, être très heureux. C'est un moment d'émotion qui est important. On a l'impression d'avoir fait quelque chose pour ce garçon, pour la vie. Et ça existe quand vous gagnez un marché. J'ai vu... le patron, avoir une larme qui coulait parce que c'était un match sur 2 ou 3 ans qu'on a gagné, parce qu'après on peut embaucher des gens, on peut donner des primes. C'est important, mais ça se construit beaucoup plus lentement. C'est pour ça que le monde du sport et le foot, c'est une sorte de laboratoire. Ce qui se passe, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fort, mais quelque part après dans l'entreprise, on vit la même chose. Un mauvais directeur dans une entreprise, il restera pas. Mais on se rend compte après 6 mois, un mauvais entraîneur, un mauvais joueur, en 15 jours, on voit qu'il n'est pas bon.
On peut virer des joueurs comme ça, en plein milieu?
On ne peut pas les virer, mais on ne peut pas les faire jouer.
On les met sur le banc.
Ne pas les faire jouer, c'est...
C'est les virer.
C'est la pire sanction.
Mmh. Vous avez toujours joué?
J'ai toujours joué. Et c'est aussi une de mes fiertés, parce qu'en 79, Strasbourg était champion. Il y en a un qui a fait tous les matchs et qui n'a pas loupé une seconde, c'était moi. Et Dominique Dropsy. Et à Bordeaux, on a fait champion. Il y en a un qui a joué tous les matchs et qui n'a pas loupé une seconde, c'était moi. Donc j'ai toujours joué. J'avais toujours la confiance de mon entraîneur et de mes coéquipiers.
C'est génial.
Donc ça, c'est bien.
Et ce côté... bon, vous êtes quand même rentré dans un star system. Comment vous l'avez vécu, ça? Bon, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui, mais...
Et on ne se rendait pas compte qu'on était des stars. On était peut-être des stars, mais on ne se rendait pas compte parce que j'allais saluer mon voisin, j'allais saluer mon boulanger. On vivait comme tout le monde, finalement. On allait dans le restaurant du coin. On n'avait pas l'impression d'être...
Il y avait quand même des sponsors, déjà. Il y avait quand même
Il y avait
ce
des partenaires,
de...
mais bon...
Pas tant que ça.
Pas tant que ça. Il n'y a eu pas encore tellement d'argent dans le foot. Mmh. L'argent est arrivé après, dans les années 85, 86, 87, 90. Là, l'argent est arrivé avec les télés. Un joueur, c'est une entreprise.
Ouais.
À l'époque, on n'était pas une entreprise.
Vous n'aviez pas d'agent ?
On n'avait pas d'agent. On était tout seul. Maintenant, c'est une entreprise, une petite entreprise. Un joueur, c'est une petite entreprise.
Alors aujourd'hui, vous avez monté ce centre de formation. Ici, on est dans le centre de formation. Vous formez des jeunes. Qu'est-ce que vous leur dites à tous ces jeunes qui rêvent aussi, eux, de devenir Mbappé ou...
L'objectif de ces stages n'est pas de former des jeunes, c'est de leur faire vivre. C'est des jeunes qui rêvent tous de vivre un peu comme
un comme pro. Vous.
Voilà, donc pendant 8 jours, ils vivent comme des pros. Donc on va leur donner de l'entraînement, etc. On va leur donner la vie en collectivité, etc. Il faut qu'ils se lèvent aussi un peu tôt le matin parce qu'on doit faire des efforts. Je leur dis que c'est fantastique, hein, il faut rêver, il faut être passionné, il faut aimer, il faut le plaisir. Mais attention, chaque métier, chaque vie demande des efforts. Hein, on ne devient pas footballeur professionnel si on ne fait pas d'efforts, si on n'est pas persévérant. Avant de devenir, vous allez avoir des moments difficiles. Si vous, dans ces moments difficiles, vous laissez tomber, c'est fini. Donc la persévérance, l'effort, le plaisir, parce qu'ils doivent avoir du plaisir. Et je leur cite toujours, je leur pose la question, un footballeur, il touche le ballon combien de temps pendant un match ? Sur 90 minutes. Ils ne savent pas. Donc le ballon, qui est leur passion, c'est le ballon. Il le touche une minute vingt dans un match. Et le reste du temps, il doit faire des efforts. Le défenseur doit de temps en temps apporter de l'aide à l'attaquant. L'attaquant doit se replier. Donc, ils font quand même beaucoup de choses qu'ils n'aiment pas faire. Courir, ils n'aiment pas faire. Donc, dans la vie, dans le foot, mais aussi dans la vie, quel que soit le métier, on doit être persévérant, on doit faire des efforts. On doit faire des choses qu'on n'aime pas faire. Et donc, les jeunes qui viennent ici, les stages depuis 30 ans... C'est des jeunes qui s'inscrivent, qui sont passionnés, qui veulent vivre une semaine de rêve avec leurs copains.
Oui, c'est pas pour ça qu'ils vont devenir footballeurs professionnels.
Non, ils sont connus. Les jeunes qui viennent ici, les bons, sont déjà connus dans leur club.
Ah oui, d'accord. Okay. Et quel regard vous portez sur le foot d'aujourd'hui ?
Oh bah, c'est le regard qu'on porte sur la société. La société évolue, le monde change, le monde de l'entreprise change, hein, et le monde du sport change, le monde du foot change. Et je pense que si on veut être performant, il faut être passionné, il faut aimer ce qu'on fait et il faut faire des efforts, il faut être persévérant, il faut jouer collectif. Donc, des valeurs qu'il y avait il y a 20, 30, 40 ans...
sont toujours les mêmes.
Aujourd'hui, si vous n'avez pas ça, vous n'y arrivez pas. Mbappé, il a un jet privé, etc. Mais un jeune directeur de société, ben, il voyage différemment du directeur d'il y a 30 ou 40 ans. Mmh. Un jeune ingénieur qui vient dans une entreprise, il ne restera pas 40 ans parce qu'il sait qu'il prend 2-3 ans ce qu'il y a de mieux, puis après il va en Chine ou il va aux États-Unis pour prendre encore sa vie. Donc ça, la vie a changé, la société a changé, donc le foot a changé. Mais ce que je crois, c'est que les valeurs restent.
Oui, les valeurs restent les mêmes. Mais cette passion, elle peut être freinée par la difficulté, par le fait que... Ouais.
Mais à l'époque aussi, hein, ils étaient freinés par la difficulté.
Ouais.
Quand j'ai commencé au Racing à 15-16 ans, je n'étais pas le meilleur. Il y avait beaucoup de jeunes qui étaient meilleurs que moi. J'étais même remplaçant des fois au début. Mais ces talents, quelquefois, quand il y avait de la difficulté, quand il y avait une montagne à traverser, ils n'étaient pas persévérants. La moindre défaite, ça y est, ils n'étaient pas battus. Donc, il y a plein de paramètres qui rentrent.
C'est ce qu'on appelle le mental, en fait. Hein.
Le mental, je pense, c'est le mental, la persévérance.
Oui. Et aujourd'hui, on a des préparateurs mentaux pour ces grands joueurs.
Oui, oui, bien sûr.
Vous n'en aviez pas ?
Non. Mais la vie, elle est entre nos mains, je pense. On a eu la chance, moi j'ai eu la chance des gens qui m'ont fait confiance, mais c'est pas parce que quelqu'un vous fait confiance que c'est gagné. Mmh. C'est votre vie, vous l'avez entre vos mains. Donc c'est vous qui décidez de ce que vous faites. Et ce qui j'ai remarqué toujours, c'est quand il y a une difficulté, les gens qui sont persévérants, qui ne lâchent pas, arrivent au bout. Ceux qui lâchent, n'y arriveront pas.
Logique. Est-ce qu'il y a des échecs qui vous ont fait progresser ?
Il y a un échec. J'ai pas fait de Coupe du Monde, alors que tous mes copains ont fait des Coupes du Monde. Et ça, c'était un échec. Et qui reste encore un petit peu.
Et pourquoi ? Vous savez pourquoi ?
Je sais pas. J'étais en 78. À l'époque, il y avait les 40 meilleurs qui étaient présélectionnés. Après, on en retenait 22. 78, j'étais parmi les 40. 82, j'étais parmi les 40. 86, j'étais parmi les 40. Donc, ils me disent, tu étais pendant 10 ans parmi les 40 meilleurs joueurs de France. Mais au moment des 22, m'a pas pris. La première fois, Hidalgo, j'ai fait tous les matchs entre 78 et 80, il m'a pas pris.
Et on ne sait pas pourquoi. Et vous ne le savez pas. Et vous ne le saurez jamais.
Je lui ai posé la question.
Ah ouais.
J'ai fait une connerie.
Ah, c'est vrai ?
Il a pris quelqu'un qui n'avait jamais joué.
C'est dingue.
En 86, là, j'ai pas eu de chance. Et Henri Michel, qui était le sélectionneur, m'a dit « Léo, je te prends », etc. Et je me place en demi-finale de la Coupe de France. Il me dit « C'est pas grave, tu te soignes un mois. » Et puis après, il m'appelle. J'ai dit « Henri, je peux pas, je suis blessé. » Là, j'aurais pu y aller. Mm. Donc, de ne pas avoir fait de Coupe du Monde, alors que toute ma génération, c'est un petit peu un regret. Mais bon, c'est peut-être parce que je ne l'ai pas mérité. Je ne sais pas, peut-être... j'étais déçu.
Sur le moment, ça a dû être dur.
C'était dur. Mm. Mais ma vie n'aurait pas forcément changé, je ne crois pas.
Vous avez fait intervenir des grands footballeurs ou des grands entraîneurs dans l'entreprise lorsque vous y étiez ?
Oui. Quand M. Laure m'a donné le poste de DRH et quand je me suis retrouvé dans mon bureau, je lis toujours avec juste le livre Code du travail, qui est un livre rouge énorme. Je me suis dit, c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire avec ce truc ? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé Aimé Jacquet, qui était le directeur technique national, et j'ai dit, écoute, Mémé, je viens d'être nommé DRH du groupe Laure. Bon, il connaissait Laure parce que Aimé Jacquet était soudeur dans sa jeunesse.
Ah.
Écoute, j'ai besoin de toi parce que je viens d'être nommé DRH et j'aimerais t'emmener une cinquantaine de directeurs d'atelier, chefs d'atelier, etc. pour que tu leur parles comme tu nous as parlé quand on jouait, comme tu as parlé à l'équipe de France. Et pendant 3 jours, tu sois avec nous. Il m'a dit, ok, tu viens. Et donc, j'ai emmené pendant 2 fois 3 jours tous les chefs d'équipe, tous les chefs d'atelier à Clairefontaine. Ils ont logé dans l'hôtel
dans les chambres
des joueurs et Aimé Jacquet leur a parlé. Voilà, on a dit voilà comment j'ai fait pour être champion du monde. Voilà comment j'ai fait pour faire des Girondins la grande équipe. Et il leur a expliqué ses valeurs, la confiance qu'il donne aux gens.
Et comment il a fait pour être champion du monde ?
Il a fixé des règles bien précises. Il a récompensé, il a sanctionné quand ça n'allait pas. Il faisait surtout confiance aux gens. Donc tout cela par des exemples. Donc ces directeurs, ils ont concrètement des choses qui ont fait gagner. Et après, quand ils sont revenus, Aimé Jacquet, il était toujours le premier. Quand vous veniez à l'entraînement, il était là.
Il était déjà là, oui.
Et quand je voyais mes chefs d'atelier, ils arrivaient au dernier moment, etc. Ils couraient. Des fois, ils ne voyaient pas la première règle, le retour. Ils étaient là une demi-heure avant.
Oui.
Ils étaient là, ils accueillaient leurs collaborateurs, etc. Et M. Laure m'a dit, il faut qu'on sorte 1000 convois à la fin de l'année. C'est le Club Med, etc. Et en fin d'année... C'est pas à cause du stage, mais on en est sorti 1500. C'est pas à cause de ça, mais il y avait une sorte de solidarité, de confiance, parce que les chefs ont vu que quand on est chef, on est exemplaire, on récompense, on mixe des règles, on doit aussi sanctionner, parce que c'est pas toujours facile de sanctionner. Et Aimé Jacquet savait faire ça.
Alors, Léonard, ce podcast s'appelle Le Podium. Le Podium, parce que vous êtes en haut du podium, quoi qu'il en soit.
Je sais pas.
Qu'est-ce que vous aimeriez faire monter avec vous sur ce podium ? Ça peut être autant de monde que vous voulez, ça peut être toute l'équipe, tout le Racing.
Il y a plusieurs choses. Il y a des gens qui m'ont fait confiance. C'est important, la confiance. Après, il y a Mes parents, ils m'ont donné quelque chose qui est important pour la vie, l'amour des parents. Et puis, comme on n'avait pas grand-chose, ils ont dit, si tu veux quelque chose, il faut que tu te battes pour l'avoir. Et ils ne se rendaient pas compte la force qu'ils nous ont donnée par rapport à ça. Après, ma famille, ma femme, mes enfants, je les mets sur le podium. C'est un moteur, c'est les enfants, les petits-enfants, c'est des moteurs. Après, c'est les gens qui t'ont fait confiance. Je pense que mon prof de gym ici, prof de sport, il m'a fait confiance. Hein. Parce que moi, je ne voulais rien savoir de l'école. Hein. Par contre, le fait qu'ils me disent, bon, écoute, on fait les Jeux Olympiques. Hein. Les Jeux Olympiques, aujourd'hui encore, ils ont lieu au séminaire de Valbourg. Donc, de m'avoir dit, écoute, on y va, tu fais, on fait ensemble. Ça m'a mis en confiance, ça m'a permis de grandir. Aimé Jacquet, il est venu à Strasbourg, il m'a dit, tu viens. Alors qu'il m'a fait confiance. Après, pendant 5 ans, j'ai passé les plus belles années de ma vie. Et puis Robert Laure, je pense que Robert Laure, c'est un grand patron d'industrie qui est venu chercher un petit footballeur. Les DRH, il restait pas longtemps.
Oui, parce que la reconversion d'un sportif de haut niveau, c'est pas facile.
Il m'a fait confiance, je lui ai fait confiance.
En fait, il vous aimait, parce que être là à 3h du matin au retour de Nice à côté de votre voiture, il voulait absolument que vous soyez là.
Comme ça, son entreprise, c'était sa vie.
Ben oui.
Il a dit, celui-là, il peut peut-être apporter quelque chose. Alors des fois, pendant les 25 ans, quand on n'était pas d'accord, je lui ai dit, écoutez, vous êtes trompé avec moi.
Je m'en vais.
Non, il m'a remis la clé. Non, c'est pas vrai. Donc il savait que, alors que dans l'entreprise, il y a beaucoup de d'énarques, de polytechniciens qui sont passés, qui ne sont pas restés. Et moi, je reste. Alors que mon CV universitaire n'est pas extraordinaire. Mais il m'a fait confiance. Donc ces gens-là, ils méritent d'être sur le podium pour ce qu'ils ont fait pour moi, comme ils ont fait pour les milliers de gens. Donc voilà, c'est un podium. Je ne sais pas si je mérite d'être tout en haut, hein, mais voilà ceux que j'emmènerai sur ce podium.
Et est-ce que vous auriez une musique pour terminer ?
Alors moi j'aime bien Pascal Obispo parce que c'est un Bordelais. Il venait nous voir toujours au match et millésime. Être père, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un millésime, la plus belle année, l'enfance, c'est quelque chose que j'adore.
Merci beaucoup, Léonard.
Merci.
Sur les coteaux en pente, les vallons amoureux, un rayon de soleil est passé sur nous deux. J'attendais de ce ciel qu'il me fasse juste un signe. Je vois mon château sortir du cœur des vignes. Tu es mon millésime, ma plus belle année. Pour ce bonheur en prime que tu m'as donné, je suis à jamais ta terre. C'est ça, être père.
Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils.
Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes.
Un podcast à emporter partout.